Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un orateur qui nous vient de l'étranger, qui est Hubert Giraud, qui est professeur à l'EPFL à Lausanne et qui est un spécialiste de l'électrochimie, spécialiste des systèmes redox flow, et il va vous donner sa version du système, peut-être un peu nuancée par rapport à la mienne, mais Hubert, c'est un plaisir de t'avoir.
Tout d'abord, un grand merci à Jean-Marie Tarascon pour cette invitation de venir à Paris. C'est toujours un plaisir de monter à la capitale. Donc, je viens donc de Suisse, comme l'a indiqué Jean-Marie. Je ne viens pas de Lausanne parce qu'on a déménagé il y a quelques années à Sion pour monter un campus qui s'appelle Energipolis. Et en fait, je vais vous parler également d'un démonstrateur qui est dans une ville qui s'appelle Martigny, juste derrière Chamonix, où nous avons une espèce d'usine qui nous permet de tester à grandeur réelle certains composés. Donc c'est dans la partie sud de la Suisse, qui s'appelle le Valais, qui a été annexé en 1815, lorsque Napoléon a perdu. Avant, c'était coupé du monde, personne ne savait que ça existait. Donc voilà. Donc nous sommes une équipe à peu près d'une vingtaine de personnes, et nous faisons deux types d'activités. Nous faisons de la chimie analytique, et nous faisons de la chimie physique, et aujourd'hui on parlera plutôt de chimie physique. Et au passage, mercredi, il y a une conférence à Paris sur l'impression inkjet et l'électronique imprimée. Et en fait, on utilise beaucoup ces techniques d'impression inkjet pour faire non seulement des capteurs, par exemple des capteurs à glucose, ou grâce à des techniques de lampes xénon que l'on va flasher, on peut tout faire sans faire de séchage d'électrodes au passage au four. Mais plus important, pour tout ce qui est l'énergie, on peut imprimer, par exemple, de l'hexachlorure de platine, on flash la lampe, par exemple sur de la LITO, et on fait la nanoparticule de platine directement en imprimant. Et vu qu'on joue avec des gouttelettes, on peut faire tous les alliages nickel-fer, platine-iridium, etc. Donc on peut, par ces techniques d'impression de nos jours, faire un tas de choses très intéressantes. On a vu aujourd'hui les techniques d'impression, et je pense que l'impression print light synthesis va jouer un grand rôle. Pour la petite histoire, nous avons fait pour notre ami Michael Gretzel une cellule Perovskite complètement imprimée, 10 par 10, sans optimisation, 15% de rendement. Donc les techniques d'impression arrivent très vite. Donc le menu pour aujourd'hui, je découpais cette conférence, ce séminaire en quelques points. On parlera d'abord des besoins de stockage. Ensuite, on parlera de mégabatteries. Donc quand je parle de mégabatteries, c'est des batteries de mégawatts. Un petit peu sur les batteries, donc redox flow. On fera un petit peu de chimie physique pour parler donc, de production d'hydrogène, de solid boosters pour les batteries redox flow, et on finira par du batch water splitting. Donc, la grande révolution, bien sûr, de ces 20 dernières années, c'est l'émergence de l'énergie solaire comme l'énergie la moins chère qui soit. Et si on en croit nos collègues du Fraunhofer Institute, en Europe, on est à l'heure actuelle à environ 4 centimes le kilowattheure d'énergie solaire installée, ou si vous préférez, 40 euros du mégawattheure. C'est bien moins que le charbon, c'est moins cher que le pétrole. C'est donc à l'heure actuelle l'énergie la moins chère disponible en Europe, d'accord ? Même moins chère que l'éolien terrestre. Malheureusement, ça demande des investissements importants et surtout, pour des pays comme la Suisse, qui sont des petits pays, ça demande des mètres carrés de surface au sol. Ça veut dire que vous êtes en compétition avec l'agriculture. Et je vous laisse imaginer les débats. Si on prend notre voisin du Nord, l'Allemagne, au mois de janvier de cette année, on voit que le prix a fait le yo-yo entre plus 100 euros le mégawattheure et des prix négatifs. On voit également qu'autour du 13 janvier, il y avait beaucoup de vent. Toutes les éoliennes allemandes ont réussi à fournir le 100% de l'électricité fournie. Les Allemands, en général, exportent 10 gigawatts. La Suisse consomme 8 gigawatts. Donc, vous pouvez imaginer un marché où le voisin du Nord a un excédent qui est plus que votre consommation. Donc, bien sûr, ces différences de prix se répercutent sur le marché suisse. Et sur le marché suisse, on a des prix qui passent également de 100 francs, qui est presque un euro, à des prix également négatifs. Et donc, vous pouvez imaginer que gérer le marché de l'électricité dans ces conditions est un exercice de style difficile, et c'est là où le stockage devient intéressant. Deux, trois slides sur la Suisse. Donc, la Suisse, c'est un pays où la population augmente. Néanmoins, la consommation d'énergie baisse. Donc, est-ce qu'on a atteint notre virage énergétique? Je ne sais pas. Enfin, on essaye tout pour minimiser la consommation énergétique du pays. Si je regarde d'où vient notre énergie, la seule énergie qui soit vraiment suisse, c'est l'hydraulique, avec également les renouvelables. La Suisse, comme l'Allemagne, a décidé de se passer des combustibles nucléaires, ce qui veut dire que l'on n'aura plus cet apport d'énergie. D'où l'importance pour nous d'être amis avec nos voisins. On n'a qu'un seul voisin, c'est l'Europe. Donc, il ne faut pas se fâcher, on ne va pas faire un Brexit lorsqu'on habite au milieu de l'Europe, parce que sinon, on risque de se couper de notre marché électrique. Il faudra bien sûr apporter du gaz des pays plus à l'est que la Suisse. Et vu que nous avons également signé la COP, les accords de la COP, nous devons baisser d'ici 2030-2040 notre consommation de pétrole de 40%. Donc, lorsqu'on regarde ce type de diagramme, on s'aperçoit qu'on a quand même un challenge assez important devant nous. Donc, en termes de stockage, qu'est-ce qu'on fait en Suisse? En général, on pompe et on turbine. Ceci est un barrage qui est juste derrière Chamonix, au-dessus de Martigny, qui s'appelle Dendre-Rance. C'est un barrage de 900 MW qui va bientôt rentrer en opération totale. Mais il faut bien voir que ces barrages, en fait, ce n'est pas du stockage saisonnier. Le lac des Maussons, qui est juste à la frontière française, vous videz le lac du Haut en 24 heures lorsque vous turbinez à 900 MW. Donc il faut bien voir que c'est du stockage journalier, peut-être hebdomadaire, mais ce n'est pas l'été pour l'hiver. Parce que le problème de la Suisse, c'est qu'on a trop d'électricité en été quand personne n'en veut, on l'exporte, et en hiver, on n'a pas assez d'électricité et on l'importe. Donc voilà à peu près la raison de l'importance du stockage dans un pays comme la Suisse. Il est important de pouvoir stocker l'énergie autrement, simplement que par stockage turbinage. Donc bien sûr, professeur Tarascon a parlé des batteries, des mégabatteries. Et ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est les mégabatteries, pas tellement pour le réglage du réseau, parce que c'est un autre marché, mais plutôt mégabatteries pour la mobilité. Donc la mobilité électrique, comme vous le savez, prédate, pour ainsi dire, le moteur à combustion. Louis-Antoine Krieger était le premier à Paris à faire des voitures électriques où il y avait même récupération de l'énergie de freinage, donc ça ne date pas d'hier. Et bien sûr, à l'époque, à la fin du 19e siècle, la concurrence, c'était démarrer une voiture avec une manivelle. Ceux d'entre vous qui vous souvenez de cet exercice, ça demande un peu d'énergie, ça casse de temps en temps des bras. Regardez Philippe Along, il a essayé de démarrer sa voiture avec sa manivelle ce week-end. Il se retrouve avec le blas dans le prat. Mais enfin, j'ai caché le texte de cette photo parce que, en fait, c'était la publicité pour la voiture électrique. C'est même les femmes peuvent les recharger, les voitures. Mais de nos jours, on ne peut plus dire ça, donc j'ai enlevé le texte. C'était une autre période. Enfin, bref. Si l'on en croit donc nos amis de Bloomberg, les ventes de voitures électriques en 2017, c'était 1,1 million de voitures. Ils estiment à 11 millions la vente en 2025. Et en 2040, grosso modo, plus de la moitié des voitures seront électriques. Et c'est surtout le marché chinois qui va dominer. Ce qui veut dire que sur les 1,6 milliard de voitures sur la route en 2040, plus de la moitié devrait être encore des voitures à combustion. En Europe, je crois que la messe est dite. Tous les grands constructeurs ont annoncé des investissements de plusieurs centaines de milliards dans l'électrification de leur gamme. Et cette semaine, le salon de l'auto de Genève démarre demain. Et en fait, tous les constructeurs maintenant montrent des voitures électriques et tous les constructeurs mettent en avant l'électrification de leur gamme. Donc la messe est dite et la question, c'est comment va-t-on faire une infrastructure de recharge? Et la grosse question, c'est à quoi va ressembler une station-service dans l'avenir? Et donc, dans notre laboratoire, on pense que les batteries de puissance vont être utiles pour faire ceci. À Martigny, où on habite, juste en face de notre labo, il y a une station-service sur l'autoroute qui s'appelle le Relais du Saint-Bernard. Il y a 6 stations de charge rapide Tesla, 105 kW. Le problème, c'est que Tesla n'a pas payé la taxe de puissance. Donc, si vous avez une voiture, ça charge en 20 minutes. En 20 minutes, vous mettez une quarantaine de kilowattheures, c'est-à-dire vous allez boire un café, vous mangez un gâteau, vous revenez, vous repartez. Mais lorsqu'il y a 2 Tesla, ça va encore. 3 Tesla, ça commence à être un peu ric-rac. 4, 5, voire 6 Tesla, vous ne chargez pas en 20 minutes. faut charger en une heure. Et en général, la station est pleine le vendredi soir lorsque les gens partent de Genève pour aller skier à Verbier ou Crans-Montana. Et donc, le vendredi soir, vous ne chargez pas en 20 minutes, vous chargez en une heure. Et au lieu de vous arrêter pour un café, vous avez le temps de manger la raclette à la station-service parce que vous n'atteindrez pas le chalet, quoi. Donc, la question est de savoir comment utiliser ces méga-batteries pour utiliser l'électricité du réseau et le mettre dans une voiture. Et l'exemple que l'on va prendre, c'est pour une batterie de 500 kWh. Nous avons une telle batterie sur le campus de Lausanne. Avec cette batterie, le clencher lithium-titanate, on a sur les toits 2 MW pic d'énergie solaire. Et toute la moitié sud du réseau du campus de l'EPFL est autonome à peu près 10 mois par an. Les mois d'hiver, ça passe pas. On est quand même content d'avoir le réseau. Mais avec cette batterie lithium-titanate et les panneaux solaires, on arrive à être autonome sur la moitié sud du campus. Donc, si l'on veut dimensionner une station-service pour des voitures électriques, il est clair que nous avons une arrivée stochastique des voitures. Elles n'arrivent pas toutes en même temps. Elles arrivent plutôt le soir vers 5-6 heures. Elles arrivent plus en semaine que le week-end. Elles ne viennent pas la nuit, etc. Et donc, nous avons fait plusieurs modèles et algorithmes. Et on voit que si on veut entre à peu près 600 et 1000 voitures par semaine, il nous faut à peu près 6 stations-service. En fait, si on voit que si je veux à peu près 600 voitures par semaine, il faudrait que je mette une ligne à 700 kW. Mais maintenant, si je mets une batterie de 500 kWh telle que celle que l'on a sur le campus de l'EPFL, on voit tout de suite qu'avec cette batterie, on peut monter à plus de 1000 voitures par semaine. Donc, lorsqu'on va faire des charges, on parle de charges à 150 kW, d'accord ? Les nouvelles générations de voitures qui arrivent, la nouvelle 208, elle va arriver, elle charge à 100 kW, d'accord ? Donc, on parle de charges puissantes. Ce n'est pas le 13 kW que l'on met dans la prise électrique à la maison, d'accord ? Donc, on voit ici que la batterie peut jouer un rôle majeur pour servir des éléments stochastiques de charge, et ça permet surtout d'utiliser l'électricité du réseau la nuit lorsqu'elle est la moins chère pour pouvoir la donner aux voitures lorsqu'elles arrivent. Si on n'avait pas de batterie, il faudrait au moins 1 MW de puissance pour avoir ces 1000 voitures. Donc, jusqu'à présent, j'ai parlé que de voitures. Les voitures, la charge normale, c'est entre 2 et 22 kW. Les charges maintenant font jusqu'à 350 kW. La nouvelle Porsche E charge à 350 kW, donc le câble est quand même assez lourd. Mais à l'aéroport de Sion, où on travaille, il y a également des avions électriques. H55 fabrique ce type de biplace école. Et quand cet avion vole, et il vole maintenant en expérimental, ça c'est la version monoplace, dans une école d'aviation, vous êtes une demi-heure à terre, une demi-heure en l'air pour la leçon. Et en fait, on a une demi-heure pour recharger l'avion pour le prochain vol école. Et donc là, il est important sur un avion de mettre tout le BMS à terre parce qu'on ne veut pas embarquer trop de battery management system dans l'avion. On parle aussi beaucoup de voitures autonomes, mais je pense que le vrai breakthrough qu'il va y avoir dans la mobilité, ce n'est pas la voiture autonome, c'est ça. Et ça, ça va être vraiment, je pense, j'espère pouvoir vivre assez longtemps pour pouvoir aller au restaurant, manger un bon repas, boire du vin et revenir à la maison en volocoptère, parce que les drones autonomes tels que celui-ci qui a été présenté à Dubaï l'année dernière et qui vole, d'accord, de la marque allemande Volocopter, je pense va vraiment révolutionner. C'est très difficile de faire une voiture autonome qui doit gérer le trafic, le gamin qui joue au football dans la rue, le piéton, le cycliste et autres. C'est très facile de gérer une flotte de drones autonomes. Regardez ce que les militaires font lorsqu'ils font des attaques de sites avec des essaims de drones autonomes qui communiquent entre eux. C'est impressionnant. Et en plus, pour les drones, c'est très simple. Il y aura les drones basse altitude sous les avions, il y aura les avions et il y aura les drones militaires au-dessus des avions. Chacun aura son étage dans le ciel et il y a plein de places dans le ciel pour voler. Et j'espère, comme je dis, vivre assez vieux pour pouvoir mettre ça dans mon jardin, une piste d'atterrissage de drones. Et si on regarde ce que Boeing vient de faire le mois dernier, Boeing a ce drone avion qui a volé, également autonome, biplace. Donc on n'est plus dans la science-fiction maintenant. Ces choses-là volent. Et les militaires ont montré l'exemple. Et si on parle d'avion, il y a même l'avion à pile à combustible, donc à hydrogène. Et c'est quand même des gens sérieux, Air Liquide, Airbus, Donc si des gens comme ça investissent beaucoup d'argent dans ce type d'aviation, c'est qu'il y aura, je pense, un marché important. Donc voilà pour ce qu'il en était dans les batteries pour la mobilité. Et donc, juste pour conclure, il n'y a pas que les voitures, il y a également les avions, il y a également les bateaux, il y a également les trains. Et donc, le besoin de grosses batteries pour charger des objets qui bougent va être assez important. Dans le cas des batteries à flux circulant, comme le professeur Tarascon l'a rappelé dans ses cours, ça ne date pas d'hier, 1880, si on en croit Nature, c'est une batterie zinc-brome. En fait, ce n'est pas vrai, c'est une batterie zinc-chlore, comme quoi il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans Nature. Et c'était Charles Bernard pour le dirigeable France. C'était l'époque où les Français allaient bombarder les Allemands en lâchant une bombe à partir du dirigeable. C'était les premiers bombardiers volants grâce au dirigeable. Quel est l'avantage de la batterie à flux circulant? Il n'y en a qu'un. C'est que la puissance est découplée de l'énergie. Dans la mesure où la puissance, c'est le nombre de mètres carrés d'électrodes que vous avez, et l'énergie, c'est le volume de votre réservoir. Et ça, c'est vraiment, à mes yeux, l'élément différenciant par rapport à toutes les autres batteries, c'est qu'on découple puissance et énergie. Donc, si vous voulez faire du stock pour l'hiver, ben, vous mettez beaucoup de réservoirs. Si vous voulez avoir beaucoup de puissance, vous mettez beaucoup d'électrodes en série. Souvent, lorsqu'on parle dans les cours de batterie au vanadium, on montre cette image qui était publiée dans Science. De nouveau, cette image est fausse parce que ça laisse croire aux gens qu'il y a du liquide qui circule entre une électrode et une membrane. En fait, ce n'est pas du tout le cas. L'électrode, c'est une éponge de carbone. Et en fait, vous avez une éponge de carbone, une membrane, une éponge de carbone qui sont comprimées et le liquide essaye de trouver son chemin dans ces éponges de carbone. Et en fait, faut faire toujours attention au dessin lorsqu'on fait de la publication scientifique parce que on essaye de simplifier parce qu'on sait de quoi on parle, mais beaucoup de gens prennent ces dessins à valeur contente et je pense que c'est un peu dangereux. Donc les batteries vanadium, les gens qui les vendent disent le grand avantage, c'est que le vanadium ne s'use pas. Dans 5000 ans, le vanadium sera toujours électroactif. C'est vrai, mais tout le reste sera cassé. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment un boom sur les batteries vanadium avec le marché qui explose. Il n'y a pas que le marché qui explose, il y a le prix. Il a été multiplié par 5 dans ces dernières années, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont très actifs sur le marché de la pile au vanadium et ce sont des mégawattheures de batteries au vanadium qui sont installées en ce moment à travers le monde. À tel point que les gens qui ont du vanadium, en général, sont des gens qui ont des intérêts miniers et ils s'aperçoivent que vendre une batterie, ce n'est peut-être pas le meilleur business model. Le meilleur business model, c'est de faire du leasing de batteries. Et bien sûr, leur espoir, c'est que s'ils vendent du kilowattheure stocké, c'est que le prix du kilowattheure va augmenter, et comme ça, leur vanadium va augmenter au cours des années aussi, ce qui est quand même avantageux. Et en fait, lorsqu'on parle de grosses batteries, on ne parle même plus de science maintenant, on ne parle que d'argent. D'accord ? Combien coûte l'investissement ? Combien coûte le marché de la régulation ? Le marché de la régulation en Suisse, avant, avec quelques mégawatts de régulation, vous faisiez au moins 1 million de revenus par an. Maintenant, vous faites à peine 100 000 francs de revenus par an. Donc, le marché de la révolution est en train de baisser très fortement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre de la régulation sur le marché. D'où l'intérêt pour les gens qui vendent du vanadium de se dire, je ne vais pas vendre ma batterie, par contre, je vais louer mes services. Et ça sera peut-être plus simple. Donc, les premières batteries au vanadium, en grosse batterie, ça date déjà de presque une décennie en arrière. Sumitomo, au Japon, avait montré l'exemple. En Chine, bien sûr, il y a une société qui s'appelle Romke qui vend ces systèmes modulaires 500 kW dont je vous ai parlé, et celui-là, c'est un 2 MWh. Donc, vous avez vu que pour une station-service, j'ai besoin que d'un quart de ceci, juste un réservoir. Et bien sûr, pour faire ces batteries en série, il faut des usines. Et ça, c'est l'usine Romke qui est près de Dalian, dans le nord de la Chine. Donc, ceci, on peut la visiter. Par contre, ce qu'on voit, c'est leur image de synthèse de la batterie qu'ils ont planifiée pour Dalian. C'est une batterie de 200 MW, 800 MWh. C'est l'équivalent d'un petit barrage alpin. C'est-à-dire que l'on peut mettre en plein centre-ville l'équivalent d'un petit barrage alpin. Donc, dans ce bâtiment, la cave, le rez-de-chaussée, c'est une piscine d'acide sulfurique avec du vanadium. Et dans les étages, vous avez des batteries de vanadium. Donc, ceci est encore une image de synthèse. Mais connaissant la société, je pense qu'ils sont tout à fait sérieux vu que l'usine pour produire les stacks qui seront dans ce bâtiment est déjà construite. Ce qui veut dire que le monde des méga-batteries arrive très très vite. Okay. Donc sur notre site de Martigny, nous avons été beaucoup plus modestes. Nous avons une 200 kW, 400 kWh. Donc ce sont les deux containers que vous voyez sur l'image de droite. Le container du bas est à peu près est rempli d'acide sulfurique avec du vanadium 2, 3, 4, 5. Et dans le container du haut, vous avez des stacks de 2,7 kW avec un bus de 700 volts. Donc le vanadium, l'acide sulfurique est pompé, rentre dans le stack, prend l'électricité ou la rend et redescend dans le réservoir qui est dessous. Officiellement, ce type de batterie peut faire des milliers et des milliers de cycles. Alors peut-être que nous sommes des brutes, mais dans nos mains, elles n'ont pas duré 2 ans. Donc au bout de 2 ans, en fait, on avait tout détruit. Dans la mesure où on pense qu'on a eu un manque d'équilibre dans la batterie, c'est-à-dire que sur le papier, c'est toujours très bien. On réduit le vanadium 3 en vanadium 2, on oxyde le vanadium 4 en vanadium 5, mais si on a des cinétiques différentes, on va se retrouver avec des états de charge qui ne sont plus équilibrés. Et le gros problème dans ce type de batterie, c'est le contrôle. Et en fait, ce sont des générations d'il y a 5 ans, et il y avait très peu de contrôle, c'est un contrôle global, on contrôlait simplement les réservoirs. Et en fait, on peut avoir des déséquilibres locaux, et le gros problème, à partir du moment où on a des déséquilibres locaux, on peut avoir des points chauds. Et en fait, si, par exemple, les plaques bipolaires ici sont des plaques en graphite, si j'ai trop de vanadium 5, je commence à être trop oxydant, ma plaque bipolaire, elle gonfle, et à partir du moment où elle commence à gonfler, la distribution courant devient complètement inhomogène, ce qui fait qu'on a des points chauds, et ce qui fait que, au bout du compte, l'amenée de courant qui était en cuivre, comme vous le voyez à droite là-bas, ça c'est l'amenée de courant neuve. À la fin, lorsqu'on a démonté, il ne restait plus que la barre d'amenée de courant. D'accord ? Tout était parti. Donc au bout de 2 ans, on a cassé complètement notre électrolyte. Donc ça m'a coûté quand même 60 000 euros pour faire brûler 32 tonnes de vanadium. Ça fait mal au cœur. Mais bon, je n'avais pas le choix parce qu'il y a des lois en Suisse qui disent qu'on n'a pas le droit de laisser un réservoir d'acide sulfurique sur le parking s'il n'est pas utilisé. Donc, il fallait bien le faire. Le problème, c'est que la batterie était sous garantie. On a refait la même batterie. Et au bout de 2 ans, elle a recassé pour les mêmes raisons. Donc maintenant, au printemps, on va reconstruire. Mais ce coup-ci, on a changé tout le design parce qu'on se fait avoir une fois ou deux, mais quand même pas trois. Quand même. Donc, quand cette batterie marchait bien, on avait développé des bus DC-DC. Donc, la voiture rouge, c'est la mienne. Elle prend que 30 kW, mais le chargeur était de, comme on dit en Suisse, de 80 kW. Et comme ça, je pouvais charger ma voiture le matin en passant. En un quart d'heure, je fais le plein. J'avais 12 kWh à mettre dedans et j'avais aucun problème pour le faire. D'un point de vue recherche, qu'est-ce qu'on a également fait avec ces batteries vanadium ? On a essayé de jouer un tout petit peu sur la partie thermodynamique. Et dans la mesure où on avait une petite batterie 10 kW, 50 kWh qu'on utilise pour les étudiants, pour l'enseignement, cette batterie est alimentée également en électricité par les panneaux solaires que vous aviez vus sur la photo précédente. Et en fait, en mettant également des panneaux solaires thermiques, on a pu chauffer la solution dans la journée lorsqu'on chargeait la batterie avec l'énergie solaire, et la nuit, on la refroidissait pour remettre le courant sur le réseau. Et donc, on voit qu'on peut jouer avec la technique. Une autre approche développée dans notre laboratoire, c'est celle qui est basée sur le cuivre. Le cuivre au milieu acétonitril forme un complexe de cuivre 1. Et en fait, lorsque l'on chauffe avec de nouveau des panneaux solaires thermiques, il n'y a pas besoin de monter très haut, à peine 100 degrés, le cuivre 1 se dismute, on récupère le cuivre 0 sous forme de particules, le cuivre 2 sous forme de solution, et on peut faire donc des batteries redox flow thermiques. Donc la dernière fois, vous avez parlé de redox flow solaire, là, elle est purement thermique. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire dans le domaine de la thermique et que le sujet n'est qu'effleuré par cette approche. Voilà. Une des raisons pour lesquelles on avait choisi la batterie vanadium, ce n'est pas parce qu'elle coûtait cher, mais parce qu'on voulait faire en fait, de l'hydrogène. Je vous rappelle qu'on veut faire des stations-service et on voulait faire une batterie qui fasse à la fois donner de l'électricité pour les recharges rapides de voitures, mais également l'hydrogène pour les voitures à pile à combustible. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi le vanadium. Si on regarde les courbes courant-tension pour l'électrolyse de l'eau, d'un point de vue thermodynamique, à partir de 0, on peut réduire l'eau en hydrogène. À partir de 1,23 volts, on peut oxyder l'eau en oxygène. Tous les électrochimistes dans la salle savent que la cinétique joue contre nous et que donc, en fait, la tension de cellules pour électrolyse se rapproche plus de 2 volts qu'autre chose. Et si je regarde où se trouve le vanadium sur ce diagramme, je vois que le couple vanadium 2-3 est plus négatif que celui de la réduction du proton en hydrogène, ce qui veut dire qu'avec du vanadium 2, théoriquement, je devrais pouvoir faire de l'hydrogène à partir du proton. Malheureusement, je ne peux pas oxyder l'eau avec le vanadium 5 parce que son potentiel redox est trop bas. Par contre, si je rajoute dans cette partie de la batterie un mélange de cerium 3 et 4, avec le cerium, je suis assez oxydant pour pouvoir oxyder l'eau. Le seul problème, c'est que je suis tellement oxydant, c'est que j'oxyde tout. Et en fait, on a détruit des batteries comme ça. Donc, de nouveau, nous avons limité la casse. Si on veut utiliser les stocks de soufre qui traînent de par le monde, on pourrait imaginer utiliser le SO2 pour oxyder l'eau et même avoir, pourquoi pas, une fuel cell. Donc, notre procédé que l'on a cherché à développer, c'était de dire, voilà, j'ai une batterie vanadium, je vais l'utiliser pour charger les voitures en électrique normale, mais je vais également l'utiliser pour fabriquer de l'hydrogène directement à la station-service, et de l'autre côté, je ferai de l'oxygène. Et si vous me permettez, je voudrais avoir quelques slides maintenant de chimie physique proprement dit. Et commencer par le premier concept, qui est celui donc du potentiel électrochimique. Le potentiel électrochimique, c'est le travail pour amener une espèce du vide vers une face. Ce travail qu'on appelle donc mu tilde a trois composants, une partie vraiment interne à la phase, mu, une partie pour approcher la phase. Si la phase est chargée, j'ai un travail électrostatique pour approcher cette phase, ZF psi, lié au potentiel externe. Et je dois également passer la couche de dipôle à la surface de la phase, dipotentiel de volta, ZF qui. Et je vois donc que le potentiel électrochimique, c'est le travail pour amener une espèce du vide vers une phase. Êtes-vous tous d'accord? Maintenant, les physiciens parlent de travaux d'extraction. Le travail pour extraire un électron d'une bille d'or, par exemple, vers le vide. Bien sûr, c'est l'opposé du travail pour amener l'électron du vide vers la phase. Ce qui veut dire que le potentiel électrochimique de l'électron, qui est donc ce travail pour amener l'électron du vide vers la bille, va dépendre de la charge. C'est-à-dire que le moyen que j'ai de faire varier le niveau de Fermi d'une bille, c'est de la charger. Si je la charge négativement, le niveau de Fermi monte. Si je la charge positivement, le niveau de Fermi baisse. Êtes-vous tous d'accord avec ça? Okay. Maintenant, en tant que chimiste, des fois, on a du mal à parler avec les physiciens, et donc, il faut parler leur langage. Nous, on parle de potentiel redox. En général, ça ne leur dit pas grand-chose. Donc, on va parler de Fermi de l'électron en solution. Comment je définis l'échelle absolue de redox? Je dis, je prends une espèce oxydée en solution, je prends un électron dans le vide, je le mets sur l'espèce oxydée, je me retrouve avec une espèce réduite. Le delta G de cette réaction, c'est la constante de Faraday fois le potentiel redox dans l'échelle absolue du vide. Maintenant, quand je suis en solution, ce que je peux dire, c'est que je prends l'espèce oxydée, je prends l'électron du vide, je l'amène dans la solution et je me retrouve avec l'espèce réduite. À partir de là, je vois que je peux définir, conceptuellement parlant, un niveau de Fermi de l'électron en solution, qui est donc le potentiel redox dans l'échelle absolue, qui correspond au travail pour amener l'électron du vide vers la solution, pour un couple redox donné. Et en fait, c'est vraiment aussi une distribution de Fermi-Dirac, parce qu'on a une statistique à deux états, oxydé réduit, et c'est vraiment un niveau de Fermi, en fait. Okay. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ceci? D'accord. Donc maintenant, toute l'électrochimie résumée en une slide. D'habitude, lorsque l'on a une électrode, on a un couple redox en solution, on va fixer le potentiel de l'électrode, c'est-à-dire on fixe son niveau de Fermi. Quand je fais ceci, le niveau de Fermi en solution doit s'égaliser avec le niveau de Fermi sur l'électrode, et par conséquent, j'ai un transfert d'électrons, une oxydation dans ce cas, de façon à équilibrer les niveaux de Fermi. Ça, c'est vraiment l'électrochimie telle qu'on l'apprend tous les jours, enfin, au bachelor ou au master. Maintenant, prenons le cas d'une particule métallique. Si j'ai une particule métallique que je vais mettre dans une solution redox, mais maintenant la solution est en excès par rapport à la taille de la particule. Ce qui veut dire que lorsque je mets la particule en solution, je vais de nouveau devoir égaliser les niveaux de Fermi, mais pour égaliser les niveaux de Fermi, je dois charger la particule parce que je n'ai plus de fil. Donc l'année dernière, le professeur Kuhn de Bordeaux était venu parler d'électrochimie sans fil. Là, on va faire de l'électrochimie sans fil, mais ce n'est pas du bipolaire, c'est simplement la bille dans la solution. Donc on voit que si je mets une particule métallique en solution, le seul moyen pour son niveau de Fermi de s'adapter à la solution, c'est de se charger. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK. Donc on a résumé tous ces travaux dans cette revue, si ça vous intéresse. C'est comment faire de l'électrochimie sur des billes, grosso modo. Et c'est là qu'arrive notre système avec le vanadium. On va prendre des billes de carbure de molybdène. Si je mets, et on va parler donc de ce concept qu'on appelle l'électrocatalyse redox, c'est comment je fais de l'électrocatalyse sans électrode avec un potentiostat, une source de tension, mais uniquement avec un couple redox. Okay. Donc ici, si je prends le travail d'extraction du carbure de molybdène, moins 474 électronvolts, le zéro de l'échelle SHE en absolu, c'est 444, je me retrouve donc avec ce niveau de Fermi. Si maintenant j'essaye de mettre le couple vanadium 2, vanadium 3 en solution, moins 250 millivolts, donc je vous rappelle, le potentiel descend comme ça, donc moins 250 millivolts, c'est en haut, à partir du moment où je mets une bille de carbure de molybdène dans une solution de vanadium 2, je vais charger le carbure de molybdène pour équilibrer les niveaux de Fermi. D'accord ? Ce qui veut dire que maintenant, vu que j'ai un autre couple redox qui est le proton, qui est plus lent, j'ai toute la différence de potentiel, si on veut bien la différence des niveaux de Fermi entre le carbure de molybdène et le proton. Parce que je fixe le niveau de Fermi sur la bille par le vanadium, et ainsi, toute la différence de potentiel, je le retrouve pour faire la réduction du proton. Je me retrouve donc avec 250 millivolts sur la bille pour faire le proton. Et donc, vu que c'est un système lent, on a un régime cinétique. Et voilà comment on fait donc ces billes de carbure de molybdène. On parle d'Enstone de chez Saint-Gobain. On met un complexe de molybdène que l'on fait cuire pour avoir l'oxyde que l'on réduit pour avoir le métal. À partir du métal, on carburise et on se retrouve donc avec des billes de carbure de molybdène. Et voici ce qui se passe lorsqu'on met des billes de carbure de molybdène dans une solution de vanadium 2. Ça bulle et on fait de l'hydrogène. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'une décade de pression, c'est 60 millivolts. C'est-à-dire que si je veux monter à 10 bars, j'ai 60 millivolts. Si je veux monter à 100 bars, je vais à 120 millivolts. J'ai 250 millivolts à disposition. Je peux faire de l'hydrogène sous pression simplement en mettant des billes dans le réservoir. OK ? Et bien sûr, le niveau de Fermi est donné par l'équation de Nernst, E0 plus V3 sur V2. Quand le rapport V3 sur V2 change, my driving force pour faire de l'hydrogène change aussi, et par conséquent, la vitesse de production de l'hydrogène varie avec l'état de charge de la batterie. Okay. On a vu que pour le SO2, je pouvais l'utiliser dans une pile à combustible pour réduire le vanadium 5 en vanadium 4. On l'a fait, voilà, on l'a fait, pas plus que ça. Et maintenant, d'un point de vue industriel, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment s'assurer que l'on peut faire de l'oxygène tout en réduisant le vanadium 5. Et avec des cellules commerciales, on arrive à faire ceci. Malheureusement, l'efficacité n'est pas très bonne, environ 50%. Donc voilà ce que je voulais dire sur la production d'hydrogène. Ce que je voulais surtout introduire, c'est ce concept d'électrochimie sur des billes et de ce qu'on appelle l'électrocatalyse redox. Okay. Maintenant, dans le cas des boosters pour les batteries redox flow, on va utiliser le même concept de chimie sans fil. Donc, dans les réservoirs d'électrolytes, on va mettre des espèces redox solides Et le couple redox qui circule, si on veut bien, peut s'appeler le médiateur redox. Lorsqu'on parle de composés d'insorption, dans beaucoup de manuels, dans beaucoup de cours, on montre cette image qui nous vient du web, qui nous vient de Science. De nouveau, cette image est vraiment... elle est jolie, elle donne les grandes idées, mais en fait, ça donne des mauvaises idées à beaucoup d'étudiants qui la voient, d'accord ? Parce qu'ils sont convaincus que c'est comme ça que ça se passe. Et on sait très bien, vous qui avez suivi les cours de M. Tarascon, que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce que l'on a, ce sont des billes, de nouveau. On a des billes d'oxyde, on a des billes de matériaux solides qui doivent discuter avec une électrode métallique, d'accord ? Ce qui veut dire que lorsque la batterie est vide, le niveau de Fermi sur la bille et sur le métal est là. Lorsque la batterie est pleine, le niveau de Fermi monte, vous êtes d'accord ? Et donc, en fait, il y a beaucoup de problèmes liés justement aux interfaces entre le métal, l'électrolyte, la bille qui ne touche pas nécessairement le métal, etc. Et en plus, si, bien sûr, la bille doit être électroneutre, est-ce que la bille peut être chargée ? Est-ce que je peux mettre plus d'électrons que de lithium ? Est-ce que je peux mettre plus de lithium que d'électrons ? Si oui, sinon, est-ce que j'ai une double couche autour de la bille ? Et bien sûr, si je mets un chargeur comme... du carbone pour améliorer la conductivité du système, il est clair que le niveau de Fermi sur le carbone doit suivre tout le monde et par conséquent, le carbone doit charger. Dans quelle mesure est-ce que le carbone contribue à l'état de charge du système ? Enfin bref. Dans le cas des solid boosters, si je prends par exemple le phosphate de fer, en fait, c'est comme pour le molybdène de tout à l'heure, je vais avoir un couple redox en excès, qui est mon médiateur, par exemple l'iode, et à partir du moment où je vais changer le rapport I- sur I3-, je vais changer le niveau de Fermi en solution. Le niveau de Fermi sur le phosphate de fer doit suivre, et par conséquent, le lithium va s'intercaler. Donc voici le concept du solid booster. Le solid booster, c'est de dire, si je veux des médiateurs qui coûtent cher, je ne vais pas en produire des tonnes. Par contre, le phosphate de fer, ça ne coûte rien. Donc je vais avoir un tout petit peu de redox médiateur qui circule, beaucoup de phosphate de fer qui ne coûte rien, que je peux accumuler en grande quantité. Dans notre groupe, on a joué avec d'autres systèmes. On a joué avec des polymères conducteurs comme le polyaniline, qui vont très bien pour le vanadium 3-4 et pour le fer. Et plus récemment, on travaille avec des bleus de Prusse. On ne cherche surtout pas à faire des nouveaux matériaux. On cherche à prendre le matériau le plus robuste, le moins cher possible. Et le bleu de Prusse n'est vraiment pas cher. C'est que du fer et du cuivre. Vous en sortez pour quelques francs le kilogramme, enfin quelques euros le kilogramme. C'est vraiment pas très cher. Par contre, si je vois que Tempo, qui est ici avec un ammonium dessus pour le rendre soluble dans l'eau, le potentiel de Tempo match complètement le bleu de Prusse avec le cuivre, ce qui veut dire que je peux me permettre d'avoir du Tempo qui est cher en petite quantité avec du bleu de Prusse qui n'est pas cher dans le réservoir. Ceci a été étudié depuis plus de 30 ans, du temps où les gens voulaient faire même des matériaux électrochromiques. Donc il y a toute une littérature qui est dessus, on ne va pas revenir là-dessus. Comme tout le monde, il est clair que si on veut avoir une bonne conductivité et des vitesses de charge, il faut charger le système soit avec du carbon black, soit avec des nanotubes de carbone. L'avantage avec les nanotubes de carbone, ici, c'est qu'on améliore la conductivité dans le composite, et on le voit parce que la dépendance avec la vitesse de balayage devient linéaire lorsqu'on a beaucoup de carbone, ça veut dire qu'on améliore l'accès au bleu de Prusse, alors que si on n'a que du bleu de Prusse tout seul, ça met un certain temps pour que les électrons et le potassium diffusent. Et en fait, ce concept ici marche très bien, même avec une électrode de zinc qu'on utilise, le bleu de Prusse cycle. Et en fait, ce bleu de Prusse est utilisé par la société aux États-Unis Natron, qui fait des batteries à sodium à queue, et vous avez deux bleus de Prusse, un au cuivre, un au manganèse, et ça vous permet... et ça, c'est du matériel qui n'est pas très cher. Voilà, je voudrais finir avec deux choses. Un, c'est mon rêve. Donc, dans 3 ans, je suis à la retraite. Donc, maintenant, je compte les jours, non pas pour aller à la retraite, mais pour finir ce projet sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Est-ce que je peux faire du batch water splitting, c'est-à-dire est-ce que je peux faire de l'hydrogène avec la lumière du soleil à des prix raisonnables ? Et l'argument, je viens du monde des interfaces liquide-liquide, et l'argument est le suivant. Si je mets une phase organique avec un donneur et un accepteur d'électrons et une phase aqueuse dessus. Et là, en général, lorsqu'on parle de photoélectrochimie, le gros problème de la photoélectrochimie, c'est de faire de la photoélectrochimie sur des électrodes qui coûtent une fortune au mètre carré. Donc là, l'idée, c'est de mettre les électrodes loin, faire tout dans des tubes en polyéthylène, par exemple, qui courent au sol, d'accord, avec un mélange biphasique. Durant la journée, sur un catalyseur qui flotte à interface liquide-liquide, je peux oxyder mon donneur, je peux faire de l'hydrogène dans un tube. Dans l'autre tube, j'ai un accepteur qui va pomper les électrons. Si j'ai un catalyseur comme un oxyde de cobalt, je vais pouvoir faire de l'oxygène. Ça, c'est la théorie. D'accord ? Ce qui fait qu'à la fin de la journée, je me retrouve avec un couple D+ à moins. Si les potentiels redox jouent, je dois pouvoir faire un reset de mon électrochimie et également un reset de mes protons si je mélange les phases aqueuses pour continuer. Et les travaux que je vais vous montrer ici, on a utilisé la même chose pour le donneur et l'accepteur, mais c'est juste un cas d'école. On a pris, parce que c'est la molécule qui est la plus stable, tétraphiafulvaline, mais ça ne sera pas le cas final. Donc, pour montrer que ces catalyseurs qui flottent, ici on a pris toujours le carbure de molybdène, mais ce coup-ci sur des nanotubes de carbone qui flottent à une interface liquide-liquide. Si je mets ça avec, par exemple, du décaméthylferrocène, c'est instantané, tout le décaméthylferrocène est oxydé et j'ai réduit mes protons en hydrogène. Maintenant, ce que l'on fait en ce moment, c'est de faire ça sur des billes de platine. Donc, de nouveau, ce concept d'électrocatalyse redox, mais maintenant photo. Si je prends le TTF, la molécule en haut à gauche, que je la mets dans de l'eau, dans un mélange eau-acétonitrile acide, le TTF se protonne pour faire TTFH+. TTFH+ absorbe la lumière, se photooxyde en TTF+, donne un électron aux platines, toujours par ce concept de catalyse redox, l'électron sur le platine va aller réduire le proton qui est aussi sur le platine. Ce qui fait que je peux faire de façon quantitative une photooxydation de mon TTFH+, et je peux faire de façon quantitative toute cette oxydation en TTF+ en faisant de l'hydrogène. Okay ? On peut le prouver en mesurant par GC la quantité d'hydrogène produit. Je peux corréler ça par spectroscopie avec la quantité de TTF+ fait. Grosso modo, rendement chimique 100%. Okay ? De nouveau, si on veut jouer avec les niveaux de Fermi, on a tous les niveaux de Fermi que l'on a mesurés pour les différents couples redox, plus les niveaux de Fermi pour l'état excité, et on voit que l'on a une driving force qui est assez intéressante. Maintenant, je peux bien sûr recycler le TTF oxydé en TTF en faisant ça sur une électrode de carbone vitreux, et je vais faire ça à 0,45 volts positif par rapport au SHE. Donc je vous rappelle, la réduction, c'est en général dans les négatifs. Là, je fais ça en positif à 0,45 volts. C'est normal, j'ai utilisé de la lumière à 455 nanomètres, donc l'énergie vient bien de quelque part, ce n'est pas de la magie. D'accord ? Maintenant, pour la partie oxydation, je vais faire l'inverse, je vais partir de TTF+, donc j'oxyde chimiquement mon TTF pour le mettre en solution, je le photo-excite toujours en présence de nanoparticules, macroparticules de platine, et ce faisant, je vais faire de l'oxygène, et je vais réduire tout TTF+ en TTF. De nouveau, je vais pouvoir le recycler sur une électrode en carbone. Pourquoi est-ce que ça marche si bien alors qu'on n'a qu'un TTF qui va prendre un électron, okay ? Donc j'ai une pompe à électrons qui marche un par un. Donc c'est le platine qui fait la banque d'électrons. D'accord ? On va pomper les électrons un par un, mais il est clair que pour oxyder l'eau, il me faut 4 électrons. On est tous d'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on regarde ce qui se passe, c'est que le TTF plus en présence de son anion BF4-, fait des empilats lamellaires qui sont en fait des semi-conducteurs P qui viennent s'absorber à la surface du platine. Donc je me retrouve avec une micro-particule de platine avec plein de petites aiguilles d'assemblage moléculaire TTF plus BF4-, avec quelques TTF au cours du temps, qui sont, TTF plus qui sont réduits, qui restent là en TTF. Et en fait, ça marche vraiment bien. Le seul problème, c'est que si je reste trop longtemps en photolyse, les protons que je forme pendant l'oxydation de l'eau en oxygène viennent protoner le TTF, et en fait, je fais du water splitting séquentiel. C'est-à-dire, au début, je ne fais que de l'oxygène, et une fois que j'ai fait que l'oxygène, j'ai fait des protons, je fais de l'hydrogène, ce qui n'est pas le but du jeu. Okay ? Mais enfin, c'est marrant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter que les protons formés viennent réattaquer le TTF ? On a travaillé en milieu biphasique, Et si je fais ça en milieu biphasique, maintenant plus avec du platine, mais avec un oxyde de cobalt, je peux oxyder l'eau en oxygène, je forme des protons qui vont en phase aqueuse et qui vont dans la contre-réservoir à gauche. Et ce faisant, je fais des bulles d'oxygène et je n'ai plus de problème, je peux faire tourner. Si je recycle le TTF qui est formé sur l'électrode, je peux oxyder l'eau à 0,55 SHE. C'est-à-dire qu'avec une molécule symétrique comme TTF, je réduis l'eau à 0,45, j'oxyde l'eau à 0,55, 100 millivolts. Ce qui veut dire que si j'ai un copain qui fait de la chimie orga, il va me faire des molécules TTF dérivées avec des potentiels redox pour avoir un meilleur donneur, pour avoir un meilleur accepteur. Si on met 200 millivolts sur les TTF, j'ai assez de driving force pour pomper mes protons. Donc je pense qu'avant de mourir, je vais voir le batch water splitting après 20 ans de travail finalement qui marche. Je suis convaincu qu'en tant que chimiste, l'imagination, on est bon à ça quand même, même sans intelligence artificielle, pauvres chimistes que nous sommes, on peut imaginer des molécules pour faire la photolyse de l'eau simplement dans des tubes par terre en plastique qui traînent et en récupérant les gaz. C'est mon rêve, donc chacun sait. Et je vais finir par électromobilis. Donc je vous avais promis. Donc électromobilis, c'est cette station que l'on a à Martigny. En fait, on est sur la station d'épuration des eaux, donc ça sent pas très bon. C'est pour ça que le mètre carré est pas cher. Et vous voyez à gauche ici notre donc station de remplissage d'hydrogène que nous avons fait nous-mêmes, 350 bars, 700 bars. On a une Hyundai qui marche avec de l'hydrogène 700 bars. On a une Kangoo qui marche avec de l'hydrogène 350 bars. Et en fait, je pense que c'est, lorsqu'on parle de redox flow et de batterie, etc., c'est important d'aller vraiment au mètre cube de solution, d'aller au mètre carré d'électrode. Bon, je peux imaginer que pour un jeune prof assistant, c'est trop risqué, il ne fera jamais sa carrière comme ça. Donc c'est quelque chose qui est réservé aux vieux profs comme moi, qui n'ont plus rien à perdre et qui peuvent se permettre de travailler 5 ans sans publier un seul papier, parce que dans ce type de travaux en génie chimique, c'est totalement ingrat. Parce que on collectionne les ennuis, et encore je suis poli, à longueur de journée, pour un résultat où le seul reward, c'est d'aller faire un tour en voiture. Donc ici, on a donc cette batterie 200 kW, 400 kWh qui a marché, je vous rassure, sur les 5 ans, elle a quand même marché 4 ans. À partir de là, comme je vous ai montré, on fait la recharge rapide de voitures électriques, la mienne. On fait également de l'électrolyse, et quand je dis qu'on fait l'électrolyse, on produit 1 kg d'hydrogène par heure, d'accord. On a également, ça c'est l'électrolyseur alcalin, on a maintenant un électrolyseur Giner à membrane. À partir de là, on a mis tout en place, tout notre propre réseau de compression, séchage, purification pour mettre l'hydrogène dans la voiture. Et nous avons le plaisir de collaborer avec la société qui s'appelle Green GT, qui fait ses voitures pour des courses d'endurance. Celle-ci marchait avec de l'hydrogène 350 bars, c'était la première version. Et tout le monde pense qu'une voiture électrique ne fait pas de bruit. Celle-là, bien sûr, lorsque vous avez de l'hydrogène sous pression, il faut amener de l'oxygène sous pression. Le compresseur n'était pas insonorisé. Cette voiture faisait plus de bruit qu'un hélicoptère au démarrage, simplement à cause du compresseur. Maintenant, ils en font une deuxième version qui est beaucoup plus silencieuse. Donc, juste pour dire ce que l'on a fait sur ce site. Donc avec la grosse batterie, on a fait de l'électrolyse. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'est pas très bon à faire marcher un électrolyseur on-off. Si j'éteins mon électrolyseur, ça me prend une demi-heure le soir pour l'inerter, le mettre sous azote, etc. Ça nous prend une heure le matin pour avoir atteint la bonne production d'hydrogène et d'oxygène, s'assurer qu'on n'ait plus de vapeur d'eau, etc. Et donc, les temps d'arrêt sont énormes. Et donc, un électrolyseur en milieu commercial ne doit jamais s'arrêter. D'où l'intérêt de le couper à une grosse batterie, parce que comme ça, je peux toujours rester dans un régime de fonctionnement. Donc, comme je dis, on a la chance de travailler avec Green GT. Cette voiture consomme quand même 12 kg d'hydrogène à l'heure. Un kilo d'hydrogène, c'est 50 kWh d'électricité, si jamais. Et on a également cette Renault Kangoo fait par Swiss Hydrogen. Donc, sur ce site, vu qu'on a plusieurs types de voitures, ce que l'on peut voir, si je prends 100 kWh du réseau, que je passe simplement par un convertisseur AC-AC, que j'aille directement par un convertisseur AC-DC de la voiture dans ma batterie, je vais mettre 83 kWh de l'électricité du réseau dans la voiture, je peux faire 440 km. La voiture électrique a le meilleur rendement, énergie qui rentre, kilomètres qui sort, roulé. Okay, et ça, c'est des vrais kilomètres. Hein. Ensuite, si je passe par la mégabatterie quand elle marchait, que je passe donc par AC-DC, et après on a ces convertisseurs DC-DC qui sont assez efficaces, je perds également du rendement, et là je tombe à 65 kWh mis dans la voiture, je fais 340 km. Maintenant, si avec ces 100 kWh, j'électrolyse, je comprime à 700 bars ou à 350 bars, si je passe pour le 350 bars, j'arrive à mettre 60 kWh dans la voiture, mais le rendement de la pile à combustible n'est que de 50%, d'accord, par rapport à la voiture électrique, qui a un rendement de 95%. Ce qui veut dire que là, je ne fais plus que 180 km. Okay. Si je suis à 700 bars, je ne fais plus que 170 km. Ce qui veut dire que ce type d'étude est mesurée. Parce qu'en général, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui sont à la batterie, il y a les gens qui font des piles à combustible, mais ils ne se parlent pas beaucoup entre eux. Donc je crois qu'on est un des rares groupes où on manie les deux, et la grosse batterie, ce qui nous relie entre ces deux technologies. Donc on voit ici quand même que la pile à combustible est moins favorable que la batterie, mais nous sommes en montagne, il fait froid l'hiver, et si vous voyez beaucoup de conducteurs de Tesla l'hiver, ils ont le bonnet et les gants, parce que s'ils mettent le chauffage, ils perdent de la distance, d'accord ? Donc, la voiture électrique en hiver, en Suisse, ce n'est pas idéal. Par contre, les 50% que l'on perd sur la voiture à pile à combustible, c'est 50% de chaleur. C'est très agréable pour aller skier. D'accord ? Notre voiture, notre Hyundai, elle fait 10 litres au 100 d'eau. D'accord ? Donc, en général, c'est de la vapeur d'eau derrière, mais de temps en temps, elle a un petit réservoir. Et quand il fait très froid, ben, quand il n'y a pas eu assez de vapeur d'eau, elle fait son petit pipi. Vous faites ça au feu rouge, il y a une grosse plaque de glace après que vous soyez parti. Vous partez rapidement sans être trop vu. Enfin bref. Maintenant, si on compare tout ça à l'essence, il faut bien voir que le rendement de la voiture à essence, c'est le pire. 18% entre le réservoir et la roue d'efficacité. D'accord ? Donc depuis un siècle, on roule avec des voitures qui n'ont que 18% d'efficacité. D'accord ? C'est-à-dire qu'avec 100 kWh, ou 10 litres d'essence qui correspond à 90 kWh, on ne fait que 120 km. Donc, vos véhicules électriques et même le véhicule à pile à combustible a, je pense, un avenir sérieux devant lui. On parlait de Green GT. Donc, Green GT fait maintenant ce type de voiture. Celle-ci est dessinée par Pininfarina. Elle est comprimée à 700 bars. La puissance est quand même 370 kW. Deux piles à combustible. Donc, 0 à 100 en 3 secondes. Donc, vu que je serai à la retraite dans 3 ans, il faut que je me bâtisse ma nouvelle vie. Donc, ma nouvelle vie est dans la course automobile. Non, je ne serai pas pilote, là, je n'étais que passager. Mais c'est de faire des structures de recharge pour voitures de course. Et je crois que c'est beaucoup plus satisfaisant que d'écrire un papier, parce qu'en fin de compte, vous avez le chrono. Et dans les essais qu'on a faits à Estoril le mois dernier, pour la première fois, on l'a fait tourner 600 km, on est à 3 secondes du record du tour par rapport à l'MP2 à essence. Donc, ce qui veut dire que la course automobile est un moyen de faire avancer les choses. Là-dedans, on a une batterie, 250 kW, 2,5 kWh. Vous allez me dire, ça ne sert à rien, 2,5 kWh. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle accélère de 0 à 100 en 3 secondes. En 10 secondes, la batterie est vide. Mais ce n'est pas grave parce que vous êtes déjà à 300 km/h. D'accord ? À ce moment-là, c'est la pile à combustible qui prend le relais. Et au freinage, de toute façon, elle se charge aussi en 10 secondes, parce qu'un pilote de course est complètement binaire dans sa tête, c'est à fond sur l'accélérateur ou à fond sur le frein. Il ne connaît rien d'autre. Donc, le Green GT a maintenant signé un accord avec l'AOC, Pierre Fillon, le frère de l'ancien ministre, pour être homologué aux 24 heures du Mans, et la première écurie H24 a démarré cette année. Elle va courir au Castellet le 13 avril prochain. Et donc maintenant, Hyundai sera aux 24 heures du Mans d'ici 2024. Toyota a annoncé qu'ils seront également en 24 heures du Mans en 2024 en hydrogène. Et Audi n'a rien dit, mais il se renseigne très fortement sur les règlements pour courir au Mans en hydrogène en 2024. Donc moi, je serai à la retraite en 2022, mais je vous peux garantir que je serai au Mans au mois de mai 2024 pour voir les premières voitures de course à hydrogène qui courent. Parce qu'au Mans, les voitures emportent 85 kg de fuel. Ça veut dire un arrêt toutes les 40 minutes. Et c'est au niveau des changements de pilote et du remplissage de l'essence que vous gagnez ou vous perdez une course. Et là, maintenant, tout l'enjeu pour les gens comme moi qui s'intéressent par la voiture elle-même, parce que je n'ai rien fait dans cette voiture, nous, on fait le plein de la voiture. On est pompiste, comme vous avez pu le comprendre. Et C'est comment remplir le plus vite possible la voiture avec de l'hydrogène à 700 bars pour qu'elle reparte le plus vite possible pour tourner. Enfin bref. Dans la course automobile, je me bats en Suisse pour faire évoluer les rallyes. Il est interdit de courir avec une voiture électrique un rallye. C'est fou quand même, non ? Donc on essaye de changer tout ça. Et pour finir, je voudrais finir, vu qu'avec Jean-Marie Tarascon, on a des intérêts pour le monde nautique, où est-ce que je vois l'avenir ? 90% de la marchandise est transportée par bateau. Depuis le 1er janvier de cette année, ils n'ont plus le droit de brûler du nafta. C'est pour ça que le prix du diesel monte, parce que maintenant, les compagnies maritimes concurrencent l'aviation pour ce marché du kérosène. Et si on regarde, par exemple, des bateaux modernes de croisière comme celui-ci de chez Viking, les moteurs sont déjà électriques. Par contre, ils ont deux génératrices diesel. Et en fait, une génératrice, c'est pour le bateau, l'air conditionné, etc. Et l'autre, c'est uniquement pour faire marcher les moteurs électriques. Ce que les gens aimeraient avoir, c'est avoir des systèmes de piles à combustible sur le bateau. Parce que si vous allez à Venise et que vous avez 10 bateaux de croisière dans la rade de Venise, vous avez un gros nuage noir sur la rade de Venise. Et les gens de Venise n'en veulent plus. Ce qui veut dire que bientôt, il y aura des réglementations européennes qui vont interdire aux bateaux de croisière de faire tourner le diesel à la rade. C'est déjà le cas en mer Baltique. En mer Baltique, les bateaux n'ont pas le droit de faire tourner. Et donc, ils se branchent sur le réseau, mais c'est 1,2 mégawatts la prise. Vous voyez l'intérêt de la grosse batterie, là ? C'est-à-dire, quand vous avez un bateau qui arrive et que vous devez lui mettre plusieurs mégawattheures d'un coup, c'est intéressant d'avoir chargé les batteries sur le quai avant. Et pour finir, j'aurai ma dernière slide. Je suis un grand croyant, un grand naïf peut-être, mais pour faire de l'énergie renouvelable, il faut des mètres carrés. On n'a pas beaucoup de mètres carrés sur Terre, surtout dans un pays comme la Suisse. Les océans ont des mètres carrés, en voulez-vous, en voilà. Vous avez en France des sociétés comme Naval Group qui font des supports pour éoliennes. Les nouvelles générations d'éoliennes, c'est quand même 12 mégawatts chacune. D'accord ? On peut très bien imaginer avoir une station polyvalente en pleine mer reliée avec des éoliennes flottantes, donc pas de pollution, sur lequel tout le ballast de la station polyvalente pourrait être par exemple du bleu de Prusse pour faire des batteries redox flow à l'intérieur de la, et faire de l'hydrogène liquide pour avoir un yacht comme celui-ci, qui vaut quand même 100 millions, parce que les gens qui payent 100 millions pour avoir un yacht, toute la nuit, ils ont doum, 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 la génératrice diesel, ils ne peuvent pas dormir, d'accord ? C'est quand même gênant quand on se paye un yacht à 100 millions, quand même. Ils pourraient au moins mettre l'hydrogène, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, donc ça va venir rapidement. Et bien sûr, ce qui revient encore plus rapidement, c'est tous les projets japonais d'alimenter le Japon par hydrogène liquide à partir de fermes solaires en Australie. Et en ce moment, le Japon et l'Australie sont en train de développer un nouveau trade, hydrogen trade route, pour exporter l'hydrogène liquide de l'Australie vers le Japon. Et là, je pense que si vous regardez les investissements qui sont en train de se faire en ce moment, Siemens, toutes les grosses boîtes, elles partent tous sur l'offshore marin de haute mer. Et je pense que la station-service, ma petite station-service à Martigny, là, avec ma petite batterie, là, on va aller vers des systèmes colossaux pour cargo, ferry et tout ce que vous voulez. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention. Et si jamais l'Institut Sapiens de Paris vient en Suisse et vient de faire un débat, et théoriquement, je devrais croiser le fer avec les gens de chez Total, qui apparemment pensent que les énergies renouvelables ne servent à rien. Donc voilà. Merci beaucoup.